Pendant toute cette semaine, à 13h30 et 20h30, Radio Escapade vous propose l'écoute des 5 épisodes de la série documentaire « La rivière en soi », réalisée par Florent Dupuis en collaboration avec Rémi Pozzo et Marianne Nicolet. « La rivière en soi » est un docu-fiction conçu à partir d'un collectage de témoignages d'habitants et d'habitantes, artistes ou passionnés des rivières, qui livrent leurs récits et points de vue autour de la présence et de la mémoire de l'eau liée aux rivières qui traversent le Grand Pic Saint-Loup. Ce podcast a été produit et diffusé dans le cadre de la Route de l'eau, un événement itinérant, culturel, écologique, scientifique et participatif autour de la présence et la mémoire de l'eau en Pic Saint-Loup. La Route de l'eau a été organisée par Lagrange Bouillon Cube du 26 septembre au 4 octobre de cette année. Épisode 1, écoutez l'eau couler.
Sans fin pour le regard, immobile ou en furie. Elle nous berce, elle nous remue, elle apaise, elle ravage. Quoi qu'il arrive, elle est là. Limpide ou pleine de trous noirs qui font flipper les enfants, autant qu'elle les fait rire aux éclats. Avez-vous déjà glissé dans ces bras-là? Viens, on descend la rivière, comme un hymne pour sentimentaux du ruisseau. Qu'on habite près d'un cours d'eau ou dans le dédale des villes, nous avons tous une rivière dans la tête, celle d'un film ou d'un roman, le grand fleuve qui traverse la capitale, les affluents au milieu des villages, un ruisseau insolent, une source intarissable. L'eau. Cet élément infatigable, indomptable, indispensable à toute vie. Et s'il fallait encore la regarder, la rêver, comprendre son fonctionnement pour mieux ajuster le nôtre. La rivière en soi. Épisode 1. Écoutez l'eau couler.
J'avais un vieil enseignant qui me disait... L'eau, c'est la vie. Enfin, c'était son résumé. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et l'eau, chez nous, elle est particulièrement importante parce qu'on est voilà sur un fleuve. On sait que c'est un fleuve tempétueux, entre guillemets, avec des épisodes sévenols et des hausses de débit qui sont spectaculaires. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est toujours impressionnant et qui m'impressionne toujours. Ça fait 10 ans que je vis ici. Le côté cru, c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant.
Mélina Choupin, animatrice Natura 2000 de la communauté de communes Vallée de l'Hérault.
Et à l'inverse, à l'autre saison, c'est aussi tout aussi impressionnant de voir à quel point le fleuve peut diminuer en débit et être à ce point acculé, c'est peut-être pas le bon terme, mais quand on se promène dans les gorges de l'Hérault et qu'on le voit tout au fond, là, dans les... Alors quelque part, il retrouve un peu un fonctionnement presque naturel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des bancs de sable, on voit qu'il divague, etc. Donc, bon, moi, ce que je retiens un peu de ce fleuve, c'est un peu ces deux extrêmes, quoi, qui font qu'on passe de tout à rien et que ça façonne pas mal, finalement, le paysage, mais aussi les activités... Les activités humaines aux abords, quoi.
En France, l'eau a un statut particulier de par la loi. La loi sur l'eau de 92 a écrit que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Et donc, sa gestion est d'intérêt général. En France, on n'a pas le droit de dire « c'est mon eau ». Légalement, ben non, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Donc, ça veut dire que si on veut utiliser l'eau, on doit en demander l'autorisation à la collectivité, et à la fin, c'est l'État qui dit oui ou non, vous avez le droit ou pas d'utiliser l'eau. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Les particuliers peuvent très bien utiliser l'eau comme ils le veulent. En France, non. C'est la collectivité qui décide de tout.
Christophe Vivier, directeur de l'EPTB du fleuve Hérault,
établissement public territorial de bassin du fleuve Hérault, à Clermont-l'Hérault, qui gère toute la gestion de l'eau sur le bassin versant du fleuve Hérault. Notre échelle d'action, c'est vraiment le bassin versant, c'est-à-dire le bassin hydrographique du fleuve, qui commence à l'Aigoual et qui finit à Agde. Donc, c'est un territoire qui fait 164 communes pour 2500 km² et environ 150 000, 200 000 habitants l'été. Et cette structure que je dirige, on a trois thématiques principales. Les crues et les inondations, la qualité des eaux et les milieux aquatiques, et la gestion du partage de la ressource en eau. Dans un contexte de tension, hein, les sécheresses de 2023 étaient vraiment très très marquantes, contexte global de changement climatique, c'est cette thématique de partage de la ressource en eau qui est vraiment la plus prégnante actuellement, qui mobilise le plus de gens et qui inquiète le plus de gens. En gros, est-ce qu'on aura assez d'eau pour subvenir aux besoins de la population, pour l'eau potable, pour irriguer les cultures qui en ont besoin? Et est-ce qu'il en restera assez dans le fleuve et ses affluents pour les loisirs, la biodiversité, les milieux aquatiques, etc.
Vincent Sablin, EPTB du Lez et animateur Natura 2000.
On est un syndicat mixte, donc ça veut dire qu'on est une collectivité territoriale. Et notre mission à nous, c'est d'avoir des activités sur la gouvernance globale de l'eau et des milieux aquatiques d'eau douce également. On mène des actions diverses et variées dans le domaine des zones humides, de la prévention du risque d'inondation, de la conservation de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de la quantité de l'eau. Et puis, on a un rôle un peu aussi de gouvernance à travers l'animation d'un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Lez et de son principal affluent de la Mosson. Donc ça, en fait, c'est un espèce de plan de gestion de l'eau. Alors, c'est surtout l'eau au sens, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le grand cycle de l'eau. Donc, on dissocie le grand cycle du petit cycle. Donc, le grand cycle, c'est vraiment l'eau dans le milieu naturel, alors que le petit cycle, c'est plutôt l'eau qui va être utilisée pour des usages domestiques. Donc, voilà, le prélèvement d'eau pour l'eau potable, l'eau retraitement, etc. Nous, vraiment, on travaille sur l'aspect milieu naturel.
Donc, le grand cycle d'eau.
Le grand cycle de l'eau, exactement.
Le monde de l'eau, c'est un petit monde, en fait. Il y en a qu'on connaît depuis longtemps, il y en a qui habitent sur le territoire, et on a aussi des chercheurs, en fait, qui habitent sur le territoire. Enfin, on a beaucoup de chance, en fait. On s'apprécie, on a envie de travailler ensemble, et ça fait que, assez rapidement, on arrive à des trucs assez dingues. Ouais.
Arnaud Lebeuz, directeur pôle transition écologique, l'eau des voies, l'ARZAC.
À l'intérieur de ce pôle, on a trois grandes compétences, en fait, qu'on assume. Donc, il y a une régie intercommunale de l'eau et de l'assainissement qui gère pour les 28 communes de la communauté de communes toutes les usines d'eau potable et d'assainissement, qui gère aussi les sources, et puis voilà, qui gère la compétence dans son ensemble, donc l'approvisionnement en eau potable, et puis à la sortie, l'assainissement des eaux usées avant rejet dans le milieu. En lien avec cette compétence qu'on appelle la compétence petit cycle, il y a la compétence grand cycle, donc la compétence GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc cette compétence, on l'exerce nous depuis 2012, donc on a pas mal de retours d'expérience, et dans ce cadre-là, donc on traite tout ce qui est préservation et restauration des milieux aquatiques, l'adaptation au changement climatique, la prévention des inondations et la prévention des risques, en fait, liés à l'eau, qui sont de plus en plus importants, parce qu'au début c'était risque inondation par débordement, maintenant on traite aussi des inondations par ruissellement et de tous les risques liés aux épisodes extrêmes, en fait, comme les pluies intenses.
Cévenol, par exemple.
Oui, ce qu'on appelle les épisodes Cévenol, alors maintenant plutôt épisodes méditerranéens.
Ah ouais,
mais parce qu'en fait, ils ne sont pas que liés aux Cévennes. Tu les as sur tout l'arc méditerranéen, et ça va de, on va dire, des contreforts des Pyrénées jusqu'à l'autre côté, finalement, les contreforts des Alpes. Et donc, la troisième compétence importante que je gère sur le pôle transition écologique, c'est la gestion des déchets, en fait, gestion et prévention des déchets. Les directives européennes et donc nationales nous obligent maintenant à réduire vraiment les déchets enfouis, et donc à valoriser un maximum de déchets aujourd'hui sur les poubelles ordures ménagères. Concrètement, il y a 70% des poubelles qui sont valorisables. Donc notre enjeu, c'est d'arriver à améliorer les gestes de tri pour réduire un maximum les déchets et puis les valoriser. Mais en fait, ça ne suffit pas, parce qu'on voit qu'au niveau des emballages, il y a vraiment une explosion des emballages. Plastique, carton, les gens commandent de plus en plus par Internet. Et on a vraiment Enfin, c'est à la fois finalement un déchet, mais c'est un déchet qui est assez facilement valorisable et revalorisable. Ça bouge beaucoup, le citoyen s'engage aussi de plus en plus. Donc on a aussi des comptes à rendre. Je vois sur le territoire, on a le comité de développement du pays, Cœur d'Hérault, qui s'investit aussi pas mal sur le champ de l'eau. Puis il y a une gouvernance qui change aussi. Voilà, il y a les commissions locales de l'eau sur les, enfin, qui sont mises en place par les établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, souvent portés par des syndicats mixtes, qui gèrent les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Et on voit que là aussi, à l'échelle micro-locale, quand on est en temps de crise, il faut que les acteurs vraiment territoriaux à l'échelle micro-locale trouvent des schémas de gouvernance. Et ça, c'est pareil, c'est en train d'évoluer.
Le SAGE est supervisé par un organisme qui s'appelle la CLE, la Commission locale de l'eau. On dit souvent que la Commission locale de l'eau, c'est un petit parlement de l'eau à l'échelle locale. Et ça réunit l'ensemble des acteurs. Donc, bien sûr, les acteurs politiques, donc les élus, qui ont souvent des rôles à jouer dans le cadre de la gestion de l'eau, par exemple sur le risque d'inondation, sur la gestion de l'eau potable, le retraitement de l'eau, l'urbanisme, le développement. Donc, les politiques ont un rôle majeur dans la commission locale de l'eau. Ensuite, il y a tout le volet ce qu'on appelle, nous, des services de l'État. Donc, c'est un peu le régalien. Donc, les gens qui sont garants du respect des règles et des lois, notamment, nous, la loi qui nous gouverne un peu, c'est la loi sur l'eau. Et donc, il y a tous ces acteurs. Et puis, il y a aussi tous les acteurs du monde, de la société civile, donc les associations, des spécialistes, des experts. Et donc, cette commission locale de l'eau est garante de la bonne mise en œuvre de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et puis, elle donne aussi son avis sur tout un tas de projets qui vont potentiellement impacter les milieux aquatiques. Donc, ça peut être des projets routiers, des projets de construction, des projets de tramway, pour parler local.
Quand on parle de mutualiser la ressource en eau, ben, y a des gens que ça rassure, ceux qui en ont besoin, et il y a des gens que ça inquiète, ceux qui l'ont déjà.
Franck Vasseur, instituteur et plongeur spéléologue.
Après, c'est pour ça qu'il faut surtout avoir de la donnée précise pour réfléchir correctement et éviter de commettre des impairs qui pourraient impacter durablement les ressources. Moi, j'avais entendu parler, mais ça, Nicolas Linhart ou autres, les gens qui sont sur le Verdus à Saint-Guilhem, il y a le Verdus. Et donc, c'est la petite rivière qui coule, hein, qui passe dans Saint-Guilhem, qui fait ses jolies cascades, etc., qui va se jeter dans l'Hérault. Et je crois qu'il y avait un projet de faire un forage à un endroit. Et je crois que le risque qui avait été émis, pareil, là, j'ai pas les sources écrites, mais enfin, j'ai entendu dire que s'il se ratait au niveau du forage, il créait un appel d'air où il détournait le Verdus partait dans le trou, et du coup, il y avait plus de Verdus qui coulait dans 5e, quoi. Donc, ça pouvait faire un peu désordre, quoi. Donc, c'est le genre, faut éviter de trop jouer à Manon des Sources aussi, hein. Il y a eu des cas comme ça où Pagnol, Manon des Sources, c'est pas complètement délirant, hein. C'est des phénomènes qui peuvent exister, quoi. Par exemple, le Lèze, sur la base des études qui ont été faites, et de, justement, des recommandations, enfin, plus que des recommandations, il y a de la faune à réserver. Ce qui se passait, c'est que ce qui était pompé dans le Lèze, ce qui est phénoménal, hein, ils peuvent pomper jusqu'à 1 à 2 mètres cubes seconde. Enfin, c'est énorme, hein. Et ce qui était pompé, bon, faisait que le niveau du Lèze baissait, forcément. Et s'il baissait trop, ben, il y avait moins de débit dans la rivière. Donc, l'eau se réchauffait. Et ça veut dire qu'il y avait la faune de la rivière qui, normalement, s'est adaptée à un certain degré de température. Si on lui réchauffe son eau, ben, elle est plus dans son optimum thermique. Elle peut en souffrir, voire disparaître. Et ce qui a été fait récemment, c'est que, du coup, ils ont imposé une nouvelle pompe dans le Lèze, qui, elle, ne sert juste qu'à alimenter le cours extérieur du Lèze, quand, justement, le niveau dans la source est baissé trop bas par les pompages artificiels. Donc, il y a une pompe qui, en fait, c'est-à-dire qu'on pompe de l'eau dans la source du Lèze à 500 mètres de l'entrée pour l'eau potable. En pompant comme ça, ben, ça fait baisser le niveau parce qu'on pompe plus que ce que le Lèze débite. Et puis, à partir d'un certain moment, quand l'eau ne déverse plus au niveau de la vasque du Lèze, ce qui est le cas en ce moment, et que le Lèze n'est plus alimenté par sa propre source parce qu'on a pompé en amont, et ben il y a une pompe qui se met là en branle et qui prend l'eau du fond, là où il y en a encore, pour la réinjecter au niveau en aval du déversoir pour qu'elle y ait toujours un minimum. Je crois que c'est 230 litres seconde. Il faut au moins 230 litres seconde. Enfin, à vérifier aussi, j'ai pas la valeur exacte, pour que la faune du Lèze puisse continuer à vivre normalement, sans être impactée par le gros captage de l'eau potable pour les humains, quoi. Mais ça, voilà, c'est des ajustements qui ont été faits en constatant que des fois, ben, on pompait trop, il n'y avait plus assez d'eau, ça réchauffait, la faune en souffrait. Donc, si on ne veut pas que tout disparaisse, ben, il faut prendre des mesures préventives, quoi.
C'est vraiment vu comme quelque chose, une ressource un peu technique, quoi. Donc, en fait, quand on parle d'eau, un peu naturellement, on va aller voir des hydrologues, on va aller voir des hydrogéologues, des hydrogéochimistes, on va s'intéresser vraiment à l'aspect physique de la ressource, ce qui est totalement nécessaire.
Anne-Laure Collard, chercheuse en sociologie et sociologie de l'environnement, INRA, Montpellier.
Mais il y a tout un côté aussi politique et social, en fait, de l'eau. Et par exemple, sur la question des sécheresses ou des pénuries, c'est pas que un phénomène climatique. Au fait, la pénurie ou la sécheresse, c'est aussi un phénomène mais profondément politique et social. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a eu des choix qui ont été faits de donner l'eau à tel ou tel acteur, ou il y a eu tel ou tel aménagement qui ont été faits, qui ont modifié aussi l'hydrologie locale, donc qui remodifient encore le partage de l'eau. Et en fait, tout ça, c'est super imbriqué, quoi. La circulation de l'eau, elle est pas naturelle, on l'a vachement contrôlée et tout ça, avec des arbitrages qui ont été faits par des personnes, pour des intérêts particuliers, voilà. Donc ça, c'est ça mon travail, c'est de montrer ça. C'est de montrer toute cette imbrication et cet entremêlement entre de l'eau aux ressources physiques et tous les arbitrages politiques et sociaux qui font que cette ressource physique, elle bouge, quoi. Et puis elle réagit aussi par rapport à nos actions, en fait, c'est ça l'idée. Donc du coup, c'est un peu toujours ce mouvement-là, un peu dialogique, de dire on a une ressource, on agit dessus, en agissant dessus, on agit sur la ressource, donc la ressource, elle réagit, et donc on va réagir. Et voilà, en fait, c'est ça que j'essaye de montrer. D'où mon intérêt de dire on a une ressource, on réagit. Elle réagit, mais si on réagit toujours de la même manière, en fait, enfin voilà, il y a une forme de montée en... un peu un serpent qui se mord la queue, et là, on a des modèles qui s'essoufflent. Donc, il faut essayer de réfléchir à d'autres manières de faire.
On a 150 ans d'air industriel derrière nous qui a craché dans l'atmosphère, dans les cours d'eau, dans les sols. Donc oui, on baigne forcément dans tous ces relents-là. Hein. À quel niveau, ça, on verra. Mais oui, c'est forcément une réalité. Hein.
Les climato-sceptiques vont dire « Oui, oh, le réchauffement climatique, n'importe quoi, il y a 15 000 ans, le Sahara était vert. » Oui, mais c'était un phénomène naturel. Il y a 15 000 ans, il n'y avait pas autant d'êtres humains. On n'avait pas, je vais employer un mot fantastique, « terraformé », notre planète.
Sandro Casagrande, directeur technique de la grotte de Clamouse.
Là, on parle maintenant l'aspect plus scientifique pour dire terraformé, c'est l'ère anthropocène. Ce qui veut dire que on n'a pas modifié la planète. Et les gens disent ouais, mais ça fait que depuis quelques centaines d'années. Non, on a commencé à modifier la planète avec les grandes civilisations, avec la sédentarisation. C'est pas mal. Hein. On aurait pu travailler. J'imagine que les peuples anciens ont travaillé de manière moderne. Mais si les civilisations se sont éteintes, c'est que finalement il n'y a pas eu de respect continuel avec la nature. C'est mon avis. Hein. Les peuples nomades ont mieux résisté au changement climatique. Je pense aux Berbères, je pense aux Mongols, je pense aux Amérindiens. S'ils ont été décimés, c'est à cause des êtres humains. Mais néanmoins, tout ça pour dire que ça fait bien au moins 4000 ans qu'on a commencé à creuser des canaux, à modifier, à faire l'extraction de roches, à construire des choses sur des sols, à tirer de l'eau à certains endroits. Pour preuve, les aqueducs, ils ont quand même quelques centaines de milliers d'années. Ces grandes constructions qu'aujourd'hui, elles sont aussi fantastiques que finalement une construction naturelle comme la grotte.
Alors, l'anthropocène, ça fait débat hein, dans la communauté scientifique.
Hervé Jourde, hydrogéologue à Montpellier.
Pour tout un tas de raisons. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les spécialistes des... des sédiments et de l'évolution des dépôts sédimentaires qu'il peut y avoir à l'échelle des temps géologiques qui ont tout un tas de critères et une charte pour dire voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui peut être décrit et observé un petit peu de façon générale à l'échelle du globe à telle ou telle période. D'ailleurs, ils ne sont pas d'accord, il n'y a pas de choses comme ça. Après, on regarde cela, bien évidemment, il y a tout un tas de zones dans le monde où l'impact de l'homme est évident, à tout niveau, que ce soit sur la ressource en eau dont on parlait, sur la qualité de cette ressource en eau, toutes les altérations qui peuvent être mises en place. Hein. Si on regarde les photos aériennes des années 40 ou 50, on n'avait pas eu encore une grosse transformation des paysages ou autres, et on pouvait voir sur ces photographies un petit peu l'empreinte de... l'eau dans le modelé géographique, etc. À partir des années 80, 90, tous les différents aménagements qu'il y a pu y avoir à coup de pelleteuses, de tractopelles et autres, font que, par exemple, les anciens cours d'eau des rivières qu'on pouvait avant deviner d'un point de vue morphologie, géomorphologie, dans les paysages, on ne les voit plus. Tout a été gommé. Alors, bien évidemment, ce n'est pas partout. Mais sur des zones comme par exemple la métropole, l'agglomération de Montpellier, c'était tellement anthropisé qu'il y a tout un tas de, je dirais, de l'impact de la nature sur l'environnement qui ont disparu du fait de ces aménagements. Et là, on ne pourra pas revenir en arrière et dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Toutes ces, voilà, ces archives, finalement, nous permettaient de savoir ce qui s'est passé dans les temps passés. Il y en a pas mal qui ont été, on va dire, effacées du fait des aménagements. Bon, ça, c'est le propre de l'homme. Et du coup, de l'anthropocène, une des problématiques liée aussi à cela, quoi.
Il y a eu une démarche nationale, un programme LIFE, voilà, pour adapter les plans de gestion des espaces naturels au réchauffement climatique. Et on sait que, par exemple, je fais une petite digression, mais dans le massif du Sancy, par exemple, en Auvergne, ils ont fait cette démarche-là de questionner leur plan de gestion de réserves naturelles par rapport au réchauffement climatique. Et ça les a amenés à la conclusion que, pour certaines espèces, il faut renoncer. On parle par exemple de l'apollon, qui est un papillon qui vit dans les alpages. Donc les alpages en Auvergne, ben forcément, ils sont assez limités. On n'est pas sur les Alpes, on n'est pas sur les Pyrénées. Donc en fait, quand le climat se réchauffe, ben les espèces, elles montent en altitude, mais il y a un moment où il n'y a plus de montagne, donc elles ne peuvent plus monter. Et donc ce questionnement par rapport au réchauffement climatique, il a carrément conduit quelque part au renoncement, en fait, à sauver certaines espèces, parce qu'en fait, on sait que vu les projections qui nous attendent, c'est peine perdue. Et donc il faut arrêter de mettre des moyens démesurés sur certaines espèces dont on sait que c'est fichu. Donc il y a quelque part un peu une question qui relève du deuil, quoi. Il y a certaines espèces pour lesquelles on pourra pas faire grand chose, et c'est un questionnement que je voudrais qu'on pose ici dans les gorges de l'Hérault, parce que on parlait, voilà, des espaces ouverts qui sont les plus importants, mais voilà, quid de leur maintien par rapport à l'activité agricole qui est un peu en difficulté. On sait que on n'a pas beaucoup parlé du fleuve Hérault, mais il y a beaucoup d'activités humaines, de baignade, de canyonisme, de canoë aussi. On sait que ces activités-là, elles vont probablement augmenter à l'avenir, parce que c'est très humain. Quand il fait chaud, on a besoin de frais, et quand on a besoin de frais, on va souvent chercher l'eau. Donc en fait, il y a tout un tas de paramètres à la fois qui sont liés aux espèces ou qui sont liés aux activités humaines, qui vont évoluer. On sait qu'ils vont évoluer, donc on voudrait vraiment faire cet exercice de projection de, bon, dans quel sens ça va aller, et nous, dans quel sens on doit aller pour faire au mieux, pour limiter un peu la casse.
J'essaye justement de réinterroger ce qui, aujourd'hui, est ancré en nous, quoi. Et c'est ça aussi qui est merveilleux avec l'anthropologie et la sociologie.
Marie Luçon, réalisatrice et doctorante en sociologie des sciences à l'INRA Montpellier.
On croit que le réel est le réel. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir conscience qu'on a un prisme de lecture sur ce réel. Et c'est là où l'anthropologie est très importante. Ce n'est pas juste un domaine de chercheurs. C'est qu'en fait, la philosophie et l'anthropologie nous permettent d'interroger nos représentations, d'interroger ce qui va de soi, de faire le petit pas de côté. C'est le cycle de l'eau, une rivière. Mais justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est pas que le cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau, c'est la géologie, c'est le bois qui y habite, c'est les habitants humains et non humains. Et en fait, cette complexité est telle que c'est vertigineux. C'est vertigineux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les meilleurs scientifiques de la rivière ne peuvent pas saisir l'ensemble des composantes d'une rivière. Elles nous échappent en permanence. Et c'est pour ça qu'il y a des controverses, c'est pour ça qu'il y a des débats techniques, c'est pour ça qu'il y a des débats scientifiques. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué de faire des politiques de la nature. C'est parce que c'est d'une complexité dingue. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, attention. C'est pas parce que c'est complexe qu'il ne faut pas agir. Mais c'est parce que c'est complexe qu'il faut être, à mon avis, humble et accepter l'incertitude. Par contre, ça, c'est une posture qui, je pense, est nécessaire lorsqu'on s'intéresse aux rivières.
Est-ce que tu penses, toi, Françoise, que l'eau, elle peut avoir une mémoire, ou en tout cas de se souvenir de quelque chose, si elle était une personne, ou même si toi, tu penses peut-être qu'elle peut véhiculer des mémoires?
Eh oui, moi, je pense que oui, parce que l'eau, elle reprend toujours sa route, quoi qu'on fasse. Ça reprend toujours son lit. C'est ça que je pense. Une eau, même si tu la détournes, un jour ou l'autre, elle reprend son lit.
Elle retrouve son chemin.
Elle retrouve son chemin.
Donc, du coup, elle se rappelle qu'elle a toujours un parcours.
Oui.
Donc elle a une mémoire.
Et moi, je pense.
Moi, je dirais plutôt que c'est ce qu'on appelle un dénivelé. Donc, elle va de haut en bas, il n'y a pas... On peut dire que c'est une mémoire, effectivement. On essaye de la dévier, on peut la canaliser, on peut la capter. Oui. Mais effectivement, un jour ou l'autre, elle repassera... Je ne dirais pas qu'elle a une mémoire. Moi. Je dirais que la géologie, la géographie fait qu'elle passera toujours au même endroit.
Et oui, parce qu'elle a toujours... Mais donc, une eau qui est toujours passée à un certain endroit, après, au bout d'un certain temps, si l'eau revient, elle passe de nouveau au même endroit.
Des grands fleuves qui ont été déviés pour arroser, elle a du mal à y repasser.
Elle s'est vengée parce qu'il y avait trop de pollution.
Elle est désolée parce qu'elle a trop bu, du coup elle a grossi, elle casse, elle emporte des choses.
Elle se souvient de couler.
S'il y a eu un mur ou un trou qu'elle n'a pas pu passer, bah elle va essayer de la frapper. C'est comme la pierre, au bout d'un moment elle va se casser et l'eau va sortir par là.
Elle aurait le souvenir un peu de ce qui s'est passé, du coup c'est elle qui serait tout. C'est un peu l'eau, elle est toujours là présente, du coup en fait c'est un peu la mémoire de la Terre.
Si vous voulez, c'est une sorte de glissement comme ça du cervelet qui peut obstruer le foramen magnum, c'est-à-dire le trou à la base du crâne qui permet la communication du médium cérébro-spinal avec le canal rachidien. Et de cette bouchure, si vous voulez, le liquide cérébro-rachidien ne s'écoule plus correctement vers le bas. Ce qui peut entraîner, en effet, comme conséquence directe, une hydrocéphalie.
Maxence Cherrier, neurochirurgien, enseignant au CHU de Montpellier et spécialisé en neuro-oncologie.
L'eau, c'est le milieu originel d'où sont issues toutes les formes de vie. Il n'y a aucun organisme vivant qui peut se passer d'eau pour croître, survivre, se reproduire. Et l'eau baigne et elle irrigue l'ensemble de nos cellules. Hein. Elle assure à travers l'organisme la répartition des nutriments, de l'oxygène ou des messagers chimiques, hein, comme les hormones. Et puis, évidemment, quand vous faites des abus, par exemple, eh bien, l'élimination des déchets, du métabolisme, hein, les toxines, tout ça. Bien entendu, elle participe à la régulation de la température du corps, avec la transpiration et la perspiration, qui est l'évaporation continue d'eau par les pores de la peau. Et puis encore, comme l'émission de vapeur d'eau par la respiration. Si là, vous soufflez dans votre main, vous allez sentir une espèce d'humidité sur votre peau. Ben, c'est de l'eau qui vient de votre corps. Hein. Et donc, bon, jusque-là, il n'y a rien qui vous étonne, n'est-ce pas? On sait bien l'importance de l'eau dans l'organisme. C'est un secret pour plus personne. Sans eau, il n'y a pas de vie. C'est simple. C'est bien pour ça qu'on la cherche sur Mars. Mais ce qui devient tout à fait extraordinaire dans le cas qui nous anime aujourd'hui, c'est que bien que l'eau représente 60 à 65% du poids total d'un adulte, on le sait, de la tête aux pieds, on est constitué d'eau. Par exemple, ça représente 83% de notre sang, je dirais entre 70 et 75% de nos organes, et le chiffre qui tout le temps fait un peu sauter les enfants, qui sont très surpris, c'est 22% de notre squelette. Donc bon, et attendez, j'y suis presque. La proportion d'eau que l'on trouve dans le corps humain, eh bien figurez-vous qu'elle varie en fonction de l'âge. Plus on vieillit, moins notre organisme en contient. Chez un bébé, c'est 75%. Chez un beau jeune homme comme vous, je dirais, bon, on est plutôt à 67-68%. Et puis, chez nos plus faibles, nos plus âgés, ceux qui vont bientôt nous quitter, on est à 50% de taux d'eau dans le corps humain. Mais on n'a jamais observé, c'est ça le cœur de notre sujet, des pourcentages d'eau beaucoup plus bas ou beaucoup plus hauts.
Qu'est-ce que vous voulez dire par?
Eh bien, alors, beaucoup plus bas, c'est pas compliqué. Hein. Une perte de 2% de la quantité d'eau contenue dans le corps, c'est tout de suite la soif. C'est le premier niveau d'alerte. Une perte de 10%, si vous vous perdez un jour dans le désert, eh bien, vous allez commencer à avoir des hallucinations. Et puis, très clairement, la déshydratation très très grave, une perte de plus de 15%, eh bien là, c'est la mort. Donc là, c'est très clair. Mais... plus haut, dans le sens inverse,
c'est-à-dire
là, plus haut, là, c'est stupéfiant.
C'était un épisode de La Rivière en Soi, un podcast de Florent Dupuis, une création de Radio Fenestrou. La suite demain à 13h30 et 20h30.